L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Je suis tombé récemment sur un ouvrage dont je crois que j'attendais depuis quelques mois, peut-être quelques années, l'arrivée. Son titre, Bienvenue dans le Nouveau Monde, sous-titre, Comment j'ai survécu à la coulitude des startups. Il est signé d'une jeune femme, Mathilde Ramadier, qui a décidé de revenir dans ce qu'on pourrait appeler un pamphlet sur 4 années d'expérience dans de jeunes entreprises de nouvelles technologies berlinoises. Des jeunes pousses, dit-on en français, des startups, pour reprendre le terme le plus commun. J'attendais ce type d'ouvrage car, comme son auteur, j'ai cru pendant un certain temps dans les rêves de disruption, de révolution, de réorganisation sociale, sociétale, économique, entrepreneuriale portée par le mouvement des startups. J'ai cru à cette panacée, ce remède universel venu d'un autre monde, d'une vallée du Silicon où il fait bon entreprendre. Depuis quelque temps, je me méfie de la philosophie qui sous-tend ce mouvement. Je me méfie de sa novlangue, son abus d'anglicisme qui va jusqu'à porter fièrement une French Tech, comme si l'emploi de 2 termes anglais était un signe de modernité au lieu de révéler du suivisme, un manque criant d'imagination et, j'assume mes propos, un véritable complexe d'infériorité. J'ai donc lu ce livre et j'ai choisi aujourd'hui de donner la parole à Mathilde Ramadier. Son récit mêlant le témoignage et l'analyse est entièrement à charge, ce qui laisse peu de place à la nuance, mais j'y reviendrai. Disons pour introduire que j'ai un respect infini pour toutes celles et ceux qui ont décidé, choisi d'entreprendre, quel que soit le nom qu'elle et ils donnent à leur entreprise. Cette émission n'est pas anti-start-up ni anti-start-upper, elle est une réflexion sur nos fantasmes modernes. Je vous promets d'apporter un peu de contradiction au discours très tranché de Mathilde Ramadier, mais il faudra pour cela être patient et rester avec nous pendant l'heure à suivre. Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'atelier des médias RFI, votre serviteur au micro Ziad Malouf et Lucie Bouteloup de la Danse des mots pour les lectures, aux manettes Simon de Creuse, en coulisses Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos et Camille Doche.
Bonjour, je m'appelle Saïd Jobrani et je suis le PDG d'Immediabug. Nous sommes ici pour révolutionner la façon de vous signaler un bug sur votre plateforme mobile.
Appin va révolutionner l'agrégation d'informations par géolocalisation pour les appareils mobiles.
Nous faisons de ce monde un monde meilleur par l'intermédiaire des algorithmes Paxos dédiés au protocole Consensus.
Et nous faisons de ce monde un monde meilleur par l'intermédiaire des centres de données virtualisés par le cloud computing.
Un monde meilleur en faisant communiquer les endpoints par des modèles canoniques de données.
Un monde meilleur par l'intermédiaire de bases de données distribuées scalables et tolérantes à la panne supportant de transactions assises.
Et nous sommes réellement local, mobile et social.
Et nous sommes complètement solo.
Et nous sommes molo sobre.
On est l'homo sobre.
On était solomo, mais maintenant on est molo sobre.
L'atelier des médias à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Nous sommes en 2011, j'arrive à Berlin et comme tous les néo-berlinois, je suis pleine d'espoir, pleine d'envie, tout est possible autour de moi, on fait la fête, on se loge à bas prix, on boit des bons cafés et là on a quand même besoin de travailler, donc je me rends compte que le secteur qui embauche le plus, qui a l'air en tout cas le plus dynamique, c'est celui des startups. Il y en a partout dans mon quartier, elles ouvrent du jour au lendemain, le midi quand on déjeune sur les terrasses on n'entend parler qu'anglais parce que il y a des start-upers partout. Donc voilà, je commence ma vie d'écrivain, je signe mon premier contrat d'édition, mais j'ai besoin de revenus complémentaires, j'ai envie de m'intégrer à Berlin, d'avoir une vie sociale au bureau, de parler allemand. Et puis au final, je n'ai parlé qu'anglais dans les start-ups. Donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi.
Née en France en 1987, je fais partie de la génération Y2, appelée aussi génération 1000 euros. Prononcée why en anglais, on dit qu'elle se demande constamment pourquoi. Qu'elle vit dans l'incertitude, travaillée à l'image de la lettre divisée en 2 branches, par l'angoisse perpétuelle du choix ou du non-choix. Le vent de fraîcheur apporté par ce nouveau mode de travail plein de promesses est-il vraiment celui dont ma génération a besoin pour se sortir de la crise?
J'ai eu ma première expérience qui a duré 1 mois et demi. À l'issue de laquelle mon jeune directeur, très brillant, qui avait fait des études de droit, qui venait d'une bonne famille allemande, m'a proposé finalement un salaire qui était 3 fois inférieur à celui sur lequel on était parti, en freelance de surcroît. Donc il me proposait 500 euros pour travailler à temps plein, en payant moi-même mes charges sociales. Et quand je lui ai dit non, tout simplement, sans me justifier, il a eu la bonne idée de me conseiller d'être plutôt hôtesse d'accueil sur des salons si je ne me sentais pas de me lancer dans l'aventure start-up, c'est-à-dire de tout donner. C'est un conseil auquel j'ai souvent repensé parce que finalement, derrière le cynisme de la remarque et le sexisme latent, il n'avait pas tort. Pourquoi m'emmerder à travailler pour si peu alors que j'allais visiblement pas en récolter les fruits? Mais ça m'a pas empêché de continuer. J'ai quand même laissé aux startups leur chance. J'ai continué. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de salaire minimum en Allemagne jusqu'en 2015. Ça a duré. Chose que les startups utilisaient évidemment. Voilà, main d'œuvre très qualifiée, très peu chère, très polyglotte et expérimentée. Et là, de mois en mois, je publie des livres et puis je change de start-up de temps en temps, en tant que freelance, en tant qu'employé. Et j'atterris chez la start-up que j'ai nommée The Base, qui a pour ambition de monter une énorme base de données sur l'art contemporain. Et là, je suis embauchée sur un poste qui en jette. Je suis un peu impressionnée. Je vais être country manager pour la France. Mais le jour où je signe mon contrat, je vois que je vais être payée 960 € brut pour un 4/5. Curieux quand même pour un poste de manager.
De quoi as-tu besoin pour exceller à ce poste? D'avoir faim et d'être poussé au-delà de ton sens du devoir? C'est ce que conseille une jeune start-up à ses futurs stagiaires. La faim et le sens du devoir prime, même sur l'expérience et les diplômes dans la liste des prérequis. Si cela permet à un débutant de tenter sa chance, pourquoi pas? Encore faut-il qu'il soit suffisamment armé. Avant même d'avoir postulé, le candidat se trouve déjà face à son sens du devoir, seul face à sa conscience. Il doit servir l'entreprise comme un chevalier sert son ordre militaire.
Le jour où je commence, je me rends compte qu'on est tous managers de quelque chose, de notre pays en l'occurrence, puisque nous sommes une quinzaine de jeunes employés à remplir cette base de données d'infos qui concernent nos pays respectifs. Donc il y a une quinzaine de langues qui se parlent dans l'open space, c'est assez formidable, ça fait un peu tour de Babel du 21e siècle, mais une tour de Babel très précaire qui est prête à s'effondrer. Et là, je tiens trois semaines parce que rien ne me retient là, en fait. Je me rends compte que je ne vais pas évoluer. C'est assez clair qu'on va tous être virés une fois que la base de données sera remplie. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Je n'ai pas non plus la consolation sur mon compte en banque, puisque les 960 € brut par mois, même à Berlin, c'est quand même très léger. Et puis, l'ambiance au travail est exécrable. L'open space est en fait un white cube dont on ne peut pas sortir. La manager qui s'occupe de nous nous flique comme si on était des petits enfants à l'école. Elle nous donne des notes, tout simplement. Elle vérifie nos résultats. Tous les soirs avant de partir, on note notre nombre de dossiers achevés dans la journée sur un tableau Velleda. Et tous les matins, elle nous convoque à son bureau, elle calcule un taux de pourcentage de réussite. Et le meilleur d'entre nous a droit chaque vendredi à un bon d'achat Amazon de 100 €. Les startups sont vraiment un entre-soi un peu fermé. C'est-à-dire que quand on travaille dans une startup, on consomme dans des startups, on pense startup. C'est un espèce de projet politique total qui nous envahit comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on est récompensé en bon d'achat Amazon. C'est un peu la carotte, la nouvelle carotte. Et je suis assez curieuse de voir que peu de gens s'insurgent contre ça. Alors il y a des limites quand même, parce que c'est vrai que le jour où c'est notre collègue chinoise qui a gagné le bon d'achat Amazon, notre jeune CEO qui... Ah oui, alors un CEO, ça veut dire Chief Executive Officer, et donc c'est l'équivalent de PDG en américain, puisque dans les startups, on ne parle que Globi. Les vieux mots du vieux monde français sont un peu ringards. Donc lorsque c'est notre collègue chinoise qui a gagné, qui a fait le meilleur score de la semaine, le chef est venu en personne, il est descendu de son bureau pour venir la féliciter et il n'a pas pu s'empêcher de préciser devant tout le monde que ça ne l'étonnait guère parce que finalement on sait tous que les Chinois travaillent comme des robots. Donc c'était pas étonnant qu'elle ait fait le meilleur score. Là quand même on s'est un peu tous regardés perplexes en se demandant à quel point c'était du second degré, ce qu'il fallait faire. Il y a eu d'autres moments étranges dans cette start-up, notamment le jour où ils ont décidé de faire une espèce de trombinoscope comme à l'école. Donc on a tous été pris en photo individuellement.
Une photographe a investi une petite pièce à côté de la cuisine et nous prend en photo un par un. Nous sommes tenus de prendre une pose de winner, c'est-à-dire avec le pouce levé, un air coquin ou suffisant, ou encore un clin d'œil un peu exagéré pour faire les marioles. La semaine d'après, tous les clichés ont été punaisés sur le mur de la cage d'escalier, sorte de wall of fame à notre échelle. Sous chaque photo, imprimée au format A4, notre prénom, notre fonction et une petite légende amusante sont là pour donner l'impression à nos collègues de nous connaître. Il est bien sûr d'usage de recourir à des références à l'enfance. Par exemple, pourrait mourir pour du Nutella, champion de SEO de Mario Kart, détient le record des retards le matin, code plus vite que son ombre. Je repense à la petite fiche cartonnée que la maîtresse avait confectionnée pour moi quand j'étais à l'école maternelle. Mon portrait y était collé. J'avais 3 ans et demi et un sourire coquin. Mon prénom était tracé au feutre en grosses lettres capitales et en dessous, il était noté que mon animal préféré était l'escargot. J'ai pensé le réutiliser étant à court d'idées pour mon slogan personnel. Mais parce qu'il est lent et préhistorique, le gastéropode à coquille n'est pas franchement l'animal totem idéal pour parler de soi dans une start-up.
Alors moi j'ai pas eu à faire de slogan parce que j'ai démissionné juste après avoir fait la photo, donc je pense qu'elle n'a jamais été affichée sur le mur des célébrités. J'avais un peu cette impression que notre boulot finalement était très répétitif, était loin du travail et des responsabilités d'un vrai country manager. On remplissait des bases de données, on était un peu abrutis comme ça, mais le fait de nous apporter quand même une ambiance de travail un peu décontractée, d'adolescents attardés, ça permettait, je pense, d'avoir le confort et l'assurance qu'on n'allait pas trop se rebeller, quoi. Souvent, le CEO, le patron, avait des éclairs de lucidité ou des idées comme ça. Donc, il postait quelque chose sur Facebook ou sur LinkedIn qui lui semblait génial, et il déboulait à toute vitesse dans notre open space, bourré de tics, de un peu de frénésie, et il nous ordonnait en fait à tous de liker ce qu'il venait de dire sur tel réseau ou tel autre. Et il venait même individuellement nous voir un par un pour nous prier de le faire sous ses yeux, parce qu'il voulait absolument créer le buzz en fait. Dès qu'il avait la moindre idée qui lui passait par la tête, il fallait que ce soit un buzz, il fallait que ce soit public, que ce soit viral. Et le jour où il est venu vers moi pour me demander de le faire, je lui ai expliqué que j'avais pas Facebook. Et là, j'ai vu dans ses yeux, en fait, l'immense pitié qu'il a ressentie pour moi à ce moment-là. Il avait l'air de penser, mais ma pauvre vieille, mais comment tu fais? D'où tu viens? Comment tu vis? Et voilà, j'avais 24, 25 ans à ce moment-là. Et lui devait en avoir 27. Mais c'est vrai qu'en travaillant dans les startups, j'étais un peu un ovni parce que j'avais l'impression que tout se passait sur Facebook. Il suffisait pas d'être là dans l'open space en fait. Il y avait une espèce d'ubiquité comme ça, il fallait être sur tous les réseaux en même temps. On communiquait par Skype en permanence alors qu'on était dans un open space qui est quand même fait à la base pour partager des idées et communiquer. Donc c'est tout un ensemble de paradoxes comme ça qui m'ont d'abord surprise, qui m'ont ensuite agacée, et puis avec le recul, en écrivant ce livre, finalement ça m'amuse aujourd'hui. J'éprouve beaucoup de plaisir à observer tout ça et de décrypter de loin.
Vous écoutez l'Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Mathilde Ramadier, auteure de Bienvenue dans le Nouveau Monde aux éditions Premier Parallèle.
J'ai travaillé pendant près de 4 ans dans une douzaine de startups. Sur ces 12 startups, effectivement, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Celle que j'appelle The Base, où je suis restée 3 semaines seulement, tellement tout était absurde. Et puis l'autre, qui fut en fait la dernière, au printemps 2015, c'était mon contrat le plus long, le contrat de travail le plus long que j'ai signé de ma vie. C'était un CDD de 6 mois, avec 6 mois de période d'essai. Le jour où je l'ai signé, je venais d'arriver, j'ai lu le contrat et j'ai cru à une faute de frappe. Je me suis dit, ils ont dû copier-coller un ancien contrat, ils ont oublié de changer ce détail, donc je vais vite aller voir la DRH pour qu'elle en imprime un nouveau. Et lorsque je lui signale la coquille, elle me dit mais non, t'inquiète pas, c'est normal, j'ai moi-même ce contrat-là, on a tous ce contrat de 6 mois avec 6 mois de période d'essai, c'est normal, on est une start-up, on n'est pas une grande banque. Et c'est vrai que c'est le genre d'excuse que j'ai entendu très souvent en ce qui concernait la précarité du contrat ou de la paye. Dès qu'on émettait un doute ou voilà, qu'on essayait de revendiquer quelque chose d'un peu mieux, on se voyait rétorquer « mais tu sais, on n'est pas un grand groupe, on est une start-up, on débute ». Donc ça, je peux très bien l'entendre, évidemment. J'imagine qu'il est très difficile de monter son business, mais j'estime quand même que quand on n'est pas en mesure de payer les gens, il faut peut-être attendre un peu, ou avant d'en embaucher, ou en tout cas, être clair dès le début. J'ai dû essuyer beaucoup de mensonges pendant ces quelques années. Et après donc The Base, où je suis restée 3 semaines, j'ai fait une petite pause. Je publie un article sur Rue 89 en mai 2013, un espèce de coup de gueule, le 1er mai, journée du travail.
Quand je regarde les annonces des startups, je lis avec stupeur sur chacune d'elles « flat hierarchy », hiérarchie plate. Effectivement, si aujourd'hui tous les employés sont country managers pour moins de 1200 euros bruts par mois, si la tâche principale du manager consiste à les noter, et si tout ce petit monde est manœuvré par les caprices d'un patron prépubère, alors oui, je veux bien croire que la bonne vieille notion de hiérarchie pyramidale est pulvérisée. Parce que les startups permettent d'enrichir rapidement leurs fondateurs sans capital de départ en attirant des investisseurs gourmands et pressés, elles matérialisent un modèle économique qui n'a pas fini de se propager. Parce qu'elles concernent Internet et donnent à croire qu'à travers elles souffle le vent de la liberté et de l'accomplissement de soi, elles sont un secteur d'avenir. Elles incarnent tout simplement la réponse au fléchissement du capitalisme par lui-même, soit le cynisme absolu. Que vont penser les futurs diplômés des écoles de commerce? Que pour se réaliser, pour être au monde au sens où l'entendait Martin Heidegger, il suffit d'un ordinateur portable, d'une connexion Internet et d'une bonne idée commerciale. Je ne compte pas généraliser à partir de ma seule expérience, mais il me semble qu'à mon âge, j'en ai vu assez pour me sentir triste, profondément atteinte et affirmer que nous vivons une époque désenchantée.
Et là, je me rends compte qu'en fait, le problème est déjà un peu connu, qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, que ça fait un peu parler à l'époque. C'était un témoignage. Je racontais mon expérience chez cette boîte, The Base. J'en sortais tout juste. Et c'était mon tout premier coup de gueule. J'étais pas du tout dans l'analyse froide. C'était vraiment j'étais encore sous le coup de la colère, je crois. Et ça m'a fait du bien de voir que les réactions étaient là, en fait, que ça soulevait un vrai problème. Donc ensuite, j'ai décidé d'en faire une bande dessinée. En fait, j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle Berlin 2.0, qui a été dessinée par un jeune Espagnol qui vit à Berlin, qui n'a pas traversé les mêmes choses que moi, mais d'autres déboires. Et c'est l'histoire, voilà, d'une jeune expat qui s'installe à Berlin, qui est pleine d'espoir, pleine d'illusions, et qui se bute un peu comme ça à cette précarité du monde du travail dont on parle très peu en France. Donc ce livre était vraiment axé sur l'Allemagne, mais je sentais que c'était quelque chose que je voulais dépasser. En fait, je voulais vraiment à terme parler de ce que j'ai vu dans les startups, parce qu'au fur et à mesure, en voyageant, en rencontrant des gens, je me suis rendu compte que c'est une idée, un mode de vivre, un mode de faire, une culture qui est déjà universelle et très bien répandue, qui vient, voilà, évidemment de la Silicon Valley, et que chaque pays, chaque ville reprend un peu à son compte, avec voilà la loi du travail qui va avec. Hein. Mais oui, j'ai recueilli ensuite des témoignages pour enrichir ma réflexion, des témoignages de Paris, de jeunes qui ont travaillé dans des startups à Paris, et ce qu'ils racontaient, c'était exactement les mêmes choses que ce que j'avais vécu. Voilà, jamais de CDD plus long que 3 ou 6 mois, même si on dit, alors ça, j'arrive toujours pas à le croire, mais on m'a déjà dit, mais tu sais, 90% des startups parisiennes embauchent en CDI. Alors ça, je voudrais bien des précisions, parce que je me demande si c'est pas finalement... Oui, on parle des embauches, mais est-ce qu'on parle des stagiaires, du coup? Est-ce que les stagiaires comptent, en fait, dans ces chiffres-là? Est-ce que les freelances, les auto-entrepreneurs comptent? Ouais. J'ai besoin de faire une petite pause.
T'as pas vu encore?
Ouais, si, j'ai déjà vu, ouais.
Il n'y a pas de problème.
Ça tombe bien, nous aussi, nous devons faire une pause. Restez avec nous, nous serons dans la deuxième partie de l'émission, toujours avec Mathilde Ramadier.
L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias RFI, nous sommes cette semaine avec Mathilde Ramadier. Je l'ai rencontrée dans un salon de thé au cœur de Paris il y a quelques jours. Elle était juste de passage dans notre capitale car Mathilde vit à Berlin depuis 6 ans. Elle vient de publier un récit de son expérience dans des jeunes pousses, des start-up berlinoises, ces entreprises de nouvelles technologies fortement influencées par la Silicon Valley américaine. Ce livre raconte et analyse les déconvenues d'une jeune expatriée française travaillant dans des sociétés obsédées par l'apparence et le cool. Bienvenue dans le Nouveau Monde, c'est le titre du livre signé Mathilde Ramadier.
Suite à ma dernière expérience en start-up en 2015 chez Vesta, en tant qu'employée, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai raconté chronologiquement tout ce que j'avais vécu, j'ai commencé à l'analyser. Alors avec les outils que j'avais à ma portée, c'est-à-dire que je ne suis pas économiste, je ne suis pas entrepreneur moi-même, donc j'ai utilisé les outils des sciences humaines et de la psychanalyse pour essayer de décrypter tout ça. Et je suis arrivée avec un manuscrit pour un livre qui pouvait faire 150 pages. Je l'ai envoyé à mes éditrices, à la maison d'édition Premier Parallèle, et on a beaucoup discuté de ce sujet-là. On a fait évoluer le livre vers une forme un peu hybride entre le témoignage et l'essai, qui n'est évidemment pas neutre, mais qui n'est pas un manifeste non plus, parce que c'est vrai que je n'apporte pas de solution concrète dans ce livre. Mon but, c'est de libérer une parole chez les gens qui vivent les mêmes choses que moi et de lancer un premier pavé dans la mare, puisque voilà, le discours pro-startup évidemment ne s'est pas affaibli. Je pense que ce n'est pas près d'arriver d'ailleurs, elles ont quand même toujours le vent en poupe. Et je me prépare à la sortie de ce livre et je m'attends en fait à des réactions assez virulentes ou variées en tout cas. On se met d'accord pour publier le livre en amont des élections présidentielles le plus tôt possible. Donc c'est prévu pour février. Et puis à l'approche de la parution, je me rends compte finalement que les réactions sont plutôt bienveillantes, que les journalistes me disent « Ah, enfin, quelqu'un parle un peu des coulisses, quelqu'un déconstruit ce bisounours géant ». Et puis une fois le livre paru, les gens ont commencé à lire et là, à ma grande surprise, j'ai reçu énormément de messages de gens que je ne connaissais pas, de jeunes qui ont travaillé dans des startups, qui ont pris la peine de m'écrire un gentil mail pour me dire merci, je pense comme vous, on peut prendre un café si vous voulez, j'espère que ça va faire changer les choses, etc. Et j'attendais toujours en fait que des entrepreneurs plus ou moins connus se manifestent pour dire que je racontais n'importe quoi ou que j'exagère. Finalement, ça s'est guère produit. Il n'y a pas eu en tout cas de proposition de débat.
Chez Vesta, la secrétaire postée à l'accueil de l'Open Space s'occupait de tout ce qui concernait de près ou de loin le bureau. Achat de matériel, planification des pots, accueil des nouveaux arrivants, mais aussi vidage du lave-vaisselle, remplissage de la machine à café. Elle a démissionné parce qu'elle était à bout.
La chose qui est très curieuse et très dommage, c'est que le deuxième type de message que j'ai reçu, c'était des messages sexistes d'entrepreneurs ou de gens du milieu qui m'écrivent et qui m'attaquent clairement parce que je suis une femme. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas que le sujet s'y prêtait. Si j'avais écrit un livre peut-être féministe, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment pas le cas. J'accorde juste un petit paragraphe, un sous-chapitre en fait à la question du sexisme dans les startups, qui existe bel et bien, qui n'est pas, c'est vrai, le sexisme n'est pas étouffant dans les startups, mais je l'ai quand même vécu quelques fois. Et c'est vrai que les messages de ce genre ont été quand même un peu trop nombreux à mon goût. Il y a des hommes qui ont pris la peine de trouver mon mail pour m'envoyer des messages assez violents, disant... Alors, ils se cachaient pas, hein. Souvent c'était leur vrai nom. Il y en a même qui explicitaient la boîte pour laquelle ils travaillaient ou qu'ils avaient monté. Et l'un d'entre eux m'a dit clairement, je me demande comment vous faites pour être dans tous les médias alors que vous n'avez rien à dire sur le sujet. Ceci dit, voilà, vous n'êtes pas moche, donc ça compense un petit peu. Voilà le genre d'argument en fait que j'ai reçu. Voilà, il y en a d'autres qui ne prenaient pas la peine de creuser un peu et de voir qu'en fait mon métier c'est d'écrire, que je ne suis plus à la recherche d'un travail dans les startups et donc ils m'écrivaient pour me proposer un poste. Pour me dire si vous venez à Paris, venez, donnez-moi votre numéro, on prendra un café je vous trouverai une place quelque part. Donc j'étais assez surprise parce que finalement, les start-up nous font croire en permanence qu'on vit dans un nouveau monde, qu'elles ont créé un nouveau monde du travail, que tout est disrupté, que l'ancien monde corporate n'existe plus. En tout cas, ce n'est plus leur affaire. Et donc, je me disais naïvement, bon, ben, il n'y a plus d'hiérarchie, d'une part, et puis il n'y a plus de grands patrons, il n'y a plus de sexisme. Et en réalité, si, c'est toujours là, c'est juste que c'est masqué différemment, le vernis est nouveau. Il est très sexy, il attire beaucoup de gens, mais je pense qu'on retombe un petit peu dans les mêmes travers qu'avant. Donc mon livre est une espèce de mise en garde en fait, pour dire attention, nouveau monde, pas pour tout le monde. D'où le titre en fait, hein, qui est un peu ironique, parce que voilà, bienvenue dans le nouveau monde, à quel point il est nouveau ce monde-là, je me demande.
L'atelier des médias.
Quand j'ai découvert le livre de Mathilde Ramadier, je l'ai déjà expliqué, j'étais ravi de son initiative. Comme elle, je crois que l'univers des startups véhicule toute une série de fantasmes et de mythes qu'il est temps de déconstruire. J'ai également été frappé par l'intérêt énorme qu'a suscité ce livre dans la presse. Mathilde Ramadier a littéralement fait le tour des médias pour parler de ce livre, ce qui est très rare pour un ouvrage traitant des nouvelles technologies. J'ai d'ailleurs fini par être un peu gêné par cet engouement général. Bienvenue dans le Nouveau Monde est un pamphlet percutant, pertinent, mais ce n'est ni une enquête, ni un travail académique. Les entreprises dont parle son auteur existent certainement, elles ne sont pas les seules à abuser de leurs salariés en se parant de coulitudes, mais toutes les startups ne fonctionnent pas de la sorte, que ce soit en Allemagne, aux USA ou en France. Pour apporter un peu de contradictoire, j'ai d'ailleurs choisi de donner la parole à une figure de la start-uposphère française. J'ai demandé à Stéphane Distinguin, fondateur et PDG de Faberno, impliqué dans la création ou la gestion d'une dizaine de start-up, de lire le livre de Mathilde, il l'a accepté, et de réagir à ce micro.
Moi, j'ai lu le livre et j'ai eu du plaisir et plutôt de plus en plus de plaisir. Au départ, c'était un tout petit peu agaçant, ce sentiment du jugement, et puis un peu de ce côté safari ou tourisme chez les start-up. Côté un peu un genre littéraire qu'on connaît, un mélange entre Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement, et puis les pamphlets sur le monde du travail, la nouvelle société. En même temps, j'ai trouvé que c'était complexe, c'était bien vu, que les analyses étaient bonnes. Je trouve que les méthodes de travail sont extrêmement bien décrites. Je trouve que toute cette partie qui est vue de l'extérieur, quand elle passe ses entretiens, le welcome kit, tout ce qui est de l'ordre du process et de cette volonté on parle de solutionnisme, donc de trouver des solutions à tout et de tout mettre en process et de tout automatiser et de le montrer, d'en faire quelque chose de cool, est effectivement quelque chose qui vaut, à mon avis, pour toutes les startups. Et sincèrement, moi, je recommanderais la lecture de ce livre à tous les start-upeurs, tous les entrepreneurs. Je trouve que c'est d'abord parce que c'est un contrepoint évidemment, dans nos équipes, on a des personnes qui pensent ça, et qui ne savent pas forcément l'exprimer aussi bien, ou on n'a pas forcément toujours la chance non plus de bénéficier de ces retours. Et il y a évidemment quelque chose à inventer. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que Amélie Nothomb avait fait au Japon. C'est-à-dire que ce côté, je suis extérieur, il y a de la violence, le monde du travail est violent. Je sais pas tout à fait si c'est propre à une entrée dans le monde du travail d'un jeune aujourd'hui, ou est-ce que c'est tout à fait caractéristique du milieu de l'entrepreneuriat numérique.
Est-ce qu'il y a un moment où toi, ayant entrepris, ayant créé des startups, dirigeant une entreprise dans les nouvelles technologies aujourd'hui, tu t'es dit, tiens, oups, j'ai un peu fait un truc comme ça, aujourd'hui je ne l'offrais plus du tout pareil, ou est-ce que tu as reconnu des choses que tu aurais fait et avec ce regard-là, tu te dis, ou avec le temps, tu te dis, non, je referai plus jamais des choses comme ça.
Oui, je me suis reconnu dans certains travers, où, en particulier cette volonté de mettre en place des process, cette volonté en fait d'avoir même une espèce de mise en équation du cool, du genre comment est-ce qu'on accueille les gens, là où ça devient extrêmement compliqué, c'est que nos entreprises sont amenées à beaucoup mettre ces choses en équation parce qu'elles grandissent très vite. Et quelque part, y compris socialement, il faut assumer ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir créer de l'emploi rapidement, à pouvoir se développer rapidement, parce que sans faire de généralité bête sur cette économie qui va très très vite, il faut aussi saisir les emplois, les talents où ils sont, faut savoir aller vite. Donc je sais pas tout à fait si je serais, j'entends le reproche, il me paraît très très justifié. Je pense que tout est une question de curseur. Je pense qu'il faut faire attention.
Tu penses à quoi en particulier?
Quoi en particulier? Les emails, l'on voit, ce flou incroyable entre la vie perso et la vie pro, dont je comprends tout à fait son agacement. Donc, ce que je veux dire, c'est que simplement, il y a une part d'agacement que je comprends, qui est de l'ordre justement de l'humain, des bonnes relations, de comment est-ce qu'on. Il y a une part des choses sur laquelle il faut faire attention, justement, à ne pas trop se mettre en scène, qu'il ne faut pas faire attention à ne pas mettre trop de process, qu'il faut réussir et surtout avoir ce retour, parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas entendue. On a l'impression aussi d'avoir quand même affaire à des gens qui sont très 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 enfermés en fait dans leur modèle, dont assez peu enclins au doute. Et d'ailleurs, on a l'impression que ces boîtes ne fonctionnent pas les unes derrière les autres. C'est aussi peut-être une des autres limites de ce livre, c'est que est-ce qu'elle a connu vraiment des startups qui fonctionnent, qui marchent bien? Celle-ci, elle a l'air quand même assez dysfonctionnelle, puisque on n'a pas l'impression que ce soit une franche réussite. Et enfin, je dis, il y a une part, et c'est entreprendre aussi, à assumer. C'est-à-dire qu'il faut assumer d'être organisé, il faut assumer à certains moments de dire oui, de dire non, d'être en capacité de suivre la participation de chacun à un projet. Et je comprends ce qu'elle en fait. Je ne suis pas tout à fait certain de pouvoir faire beaucoup mieux.
C'était Stéphane Distinguin, fondateur et PDG de Faber Novel. Stéphane réagissait à ton livre, Mathilde Ramadier, Bienvenue dans le Nouveau Monde, un pamphlet qui revient sur ton expérience dans quelques jeunes pousses, quelques start-up berlinoises et propose une analyse de la philosophie start-up.
C'est vrai que j'ai toujours gardé une distance. Je me sentais pas comme dans un safari quand j'étais dans les start-up. J'avais du respect pour elle et de nombreuses fois, j'ai vraiment voulu m'investir. Et une fois ou deux, j'étais prête à même mettre mes livres de côté pour ne faire que ça. Mais j'avais une distance parce que je pense que c'est dans ma nature aussi. Je suis pas forcément quelqu'un de réservé, mais je suis souvent dans l'observation depuis que je suis toute petite. Et là, ça m'a servi. Finalement, j'ai sauvé un peu ma peau aussi avec ça, parce que comme je le disais, je suis pas sur Facebook. C'est pas par snobisme, c'est vraiment pour me protéger en fait. Et ce monde des startups, je pense que si on le prend sans aucun recul, ça peut donner lieu à des comportements type roquette internet. On abolit la frontière privée professionnelle, on se donne à fond. Et finalement, c'est un peu le phénomène Icare qui brûle ses ailes en s'approchant trop près de la lumière. Ce que je souhaiterais avec ce livre aussi, c'est que les entrepreneurs qui se reconnaissent en fait dans ces travers-là réfléchissent un peu plus à la place de l'empathie, de l'humain, de la maturité même, pourquoi pas. Finalement, c'est ce qu'il disait très bien, qu'il est agacé lui aussi par ses comportements un peu flambeurs, nouveaux riches.
Quand je lis les conseils prodigués aux jeunes ou futurs entrepreneurs un peu partout sur le web, je me rends compte à quel point le mot d'ordre est d'être et de rester à tout prix actif et efficace, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Tout doit être organisé, managé, mis sur une plateforme, de l'emploi du temps aux réunions de travail, en passant par les employés eux-mêmes et leurs tâches, les différents cercles d'amis, la famille ou les loisirs. Jeff Bezos, patron d'Amazon, avoue changer d'idée 10 fois par jour, sans forcément en parler à ses managers. Justement parce qu'il est intelligent et donc flexible. Ce symptôme qui se nomme « fuite des idées » en psychiatrie est typique de l'état maniaque. Selon les gens comme Jeff Bezos, apprendre, avancer, être efficace, c'est aussi savoir adopter une nouvelle idée en se disant qu'elle est probablement meilleure que celle qu'on avait ne serait-ce que quelques minutes auparavant. Puis retourner sa veste en conséquence et donc forcer tout le monde à nous suivre. Comme une girouette devenue folle.
j'aurais bien aimé justement voir autre chose que Berlin peut-être en termes de sujet d'analyse, parce que moi j'ai l'impression que justement ici on est quelques-uns, et je pense même qu'on pourra dire qu'on est assez nombreux à avoir essayé d'inventer quelque chose d'un peu différent, qui soit pas uniquement ces préceptes californiens, ce nouveau capitalisme, mais d'avoir une façon de les appréhender, de les pratiquer, qui n'était pas tout à fait ce qu'elle en fait. Et ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir en discuter avec elle, de savoir justement si on est tout à fait les mêmes, ou si on a réussi à faire muter ce gène-là pour en faire quelque chose de différent.
C'est vrai que dans ce livre, je parle de l'Allemagne parce que je ne cherche pas à me déguiser, à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas une experte, je n'ai pas travaillé dans des startups à Paris. Néanmoins, en arrivant à Berlin en 2011 et en commençant à travailler dans des startups, je ne sortais pas des jupes de ma mère. J'ai bossé à Paris à partir de 18 ans en alternance, j'ai fait des stages, j'ai travaillé en agence de publicité à 19 ans, qui est un milieu très féroce aussi, mais que je crois que j'ai préféré la pub parisienne aux startups berlinoises. Voilà, je travaillais dans une radio associative, dans des collectifs de graphistes. Donc j'avais déjà un peu navigué entre les mondes et je pense que j'étais pas complètement naïve. Néanmoins, pour écrire le livre, j'ai quand même recueilli énormément de témoignages de Parisiens, j'ai épluché la presse, j'ai consulté surtout les offres d'emploi à Paris pendant des mois et des mois, et là je suis tombée sur les mêmes types d'offres d'emploi que Berlin. Elles sont toutes structurées de la même façon, en fait. Le titre de l'offre comprend le nom du poste, qui souvent ne veut pas dire grand chose en soi. On a même affaire à des métaphores, des euphémismes de bienséance, c'est-à-dire on va avoir un poste pour être réparateur de bonne humeur. Ça, je crois que c'est un des meilleurs que j'ai vu. Le réparateur de bonne humeur, c'est l'agent du service client qui répond au téléphone toute la journée. Voilà, on a des managers de ceci, des managers de cela, des office managers, alors que c'est censé être un responsable administratif. Souvent, c'est la personne qui est à l'accueil et qui répond au téléphone. Donc, j'ai vu finalement qu'à Paris, c'est sûr que j'ai pas pu rentrer dans des boîtes à Paris. Je vivais à Berlin, j'allais pas déménager à Paris exprès pour ça. Mais j'ai eu des échos quand même très fiables, et j'ai vu surtout que cette culture se répand ici aussi. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, que toutes les startups ne sont pas si désordonnées et chaotiques. Ce qui est vrai aussi, je pense, c'est que la loi du travail en France, malgré tout, protège un peu plus les employés que la loi du travail allemande, où on a des contrats type mini-job, qui sont des contrats plafonnés à 450 € par mois, et qui sont très largement abusés, hein, qui étaient faits au départ pour les étudiants. Mais voilà, on assiste aussi en France, je crois, à une prolifération du statut d'auto-entrepreneur qui n'est pas forcément l'idéal et qui convient pas à tout le monde, qui peut être très précaire. On l'a vu avec Uber notamment.
Il y a en fait la question un peu sous-jacente, ça aurait pu s'appeler comme ça ton livre, Startup, de quoi es-tu le nom?
Oui.
Ouais. Finalement, c'est quoi la réponse pour toi? C'est si tu devais résumer, qu'est-ce que dit la startup d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle vend? Et qu'est-ce qu'elle est en réalité à tes yeux? Ou que cache ce terme pour toi? Et pour l'expliciter, tu invoques souvent la psychanalyse, carrément, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu... Ils sont un peu fous, quoi. Il y a un côté un peu sectaire, en fait, ouais, dans cet univers.
Si je devais résumer la start-up en un mot, ou en tout cas le concept de start-up tel que je l'ai vu et vécu, pendant quand même une période assez longue, je dirais malentendu. C'est-à-dire qu'elle peut vendre du malentendu. C'est souvent qu'il y a un fossé, finalement, entre la promesse et l'aboutissement, entre ce qu'on prétend et puis ce qui est. Donc le principe de réalité nous revient souvent un peu en pleine face. Et ce que je décris beaucoup dans le livre, à travers le langage notamment, c'est tout cet univers un peu de faux-semblants. On passe beaucoup de temps à paraître sur les réseaux sociaux, on déguise, on maquille des postes assez précaires en fait avec des jolis noms. On cherche des jeunes très diplômés qui ont voyagé, qui parlent plusieurs langues pour en fait leur... faire des tâches répétitives et abrutissantes. Donc voilà, j'ai souvent vécu ce gâchis de talent d'un peu trop près. Évidemment, quand on crée une boîte, il y a plein de tâches ingrates, hein, il y a plein de choses, ils sont pas forcément créatives. Encore une fois, voilà, j'appelle à un peu plus de transparence et d'honnêteté. Donc oui, je dirais un univers de faux-semblants qui ne dit pas son nom. Et pour lequel, finalement, c'est ça peut-être l'issue positive à tout ça. Il reste encore beaucoup de choses à faire et à construire.
Toute compétition implique un gagnant et un perdant. Qu'une entreprise soit en compétition avec d'autres, c'est une chose, c'est la loi du marché. Mais qu'elle mette en concurrence ses employés, qui plus est de façon transparente, c'est-à-dire publique, sous prétexte de les coacher efficacement ou de les motiver de façon décomplexée, c'est les traiter comme des gladiateurs. Bienvenue dans l'arène. Avec ce logiciel de management social, nous sommes à la merci d'un pouce qui se lève ou s'abaisse comme celui de l'empereur. Le pouce en l'air, c'est la gloire. Sinon, on est promis à la poussière, et pour longtemps. Du moins jusqu'à la chute de l'Empire. À l'heure où 146 startups sont valorisées à plus d'un milliard de dollars, dont 12 super licornes dépassant les 10 milliards, certains experts craignent l'explosion prochaine de ce qu'ils pensent être une bulle des startups. Tandis que d'autres, déjà euphoriques, pensent que le Dow Jones sera composé à moitié de géants de l'Internet d'ici 20 ans. Après tout, il est bien réconfortant de penser qu'une révolution est en marche dans notre époque houleuse et que des jeunes gens courageux et sympas bousculent l'ordre établi pour nous sauver de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre société. La novlangue des startups veille avec soin à ce que le message se diffuse largement avec la complicité d'autres acteurs. Parmi eux, l'État et de nombreux médias.
On peut peut-être conclure justement un peu comme tu le fais dans ton bouquin sur l'image de la licorne. Donc ouais. Expliquer ce que c'est et puis montrer peut-être le côté un peu...
Ouais. Bah, la licorne, justement, pour moi, c'est la figure, l'incarnation du malentendu. C'est-à-dire qu'on utilise un animal qui n'a jamais existé, qui a toujours été mythologique et auquel on a prêté mille et une vertus. Je crois que au Moyen-Âge, la licorne, c'était un peu un symbole de fécondité. Et puis c'était un animal qui était à la fois très beau, très pur, blanc, mais en fait qui était maléfique, qui pouvait être très méchant, un peu comme les ours blancs, hein, qui sont les pires des ours. Et je trouve ça étonnant finalement qu'on se serve d'un animal qui n'a jamais existé pour décrire un phénomène réel et un phénomène derrière lequel tous les start-upers courent, c'est-à-dire que la licorne dans le jargon, c'est la start-up qui a été valorisée à plus d'un milliard de dollars. Évidemment, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple sont des licornes. Et par ailleurs, on retrouve la licorne aussi dans d'autres univers socioculturels, dans la baie de San Francisco, qui est très geek. C'est pas étonnant qu'on parle de licorne aussi voilà, dans l'univers de l'heroic fantasy, ou même dans la communauté gay. C'est vrai que j'ironise un petit peu dans le livre... sur la corne de la licorne, en plus, qui est quand même un symbole assez phallique, un peu conquérant comme ça, qui va de l'avant. Donc c'est comme s'il y avait une espèce d'agressivité latente, en fait, dans cet animal. Et la personne qui a eu l'idée d'appeler les startups valorisées à un milliard une licorne, c'est une femme, en l'occurrence, c'est une américaine, une économiste, ou en tout cas... une investisseuse qui a eu cette idée-là il y a quelques années. Il a fallu que quelques secondes pour que le web s'en empare. On est dans le pur symbole, en fait. C'est-à-dire que non seulement on va symboliser un phénomène économique très puissant par un animal, mais en plus c'est un animal qui n'a jamais existé, qui est donc un pur symbole, en fait, hein, qui est représenté en peinture, qui est évoqué dans des mythes. Et voilà, enfin, je fais appel à la psychanalyse dans le livre. En psychanalyse, on distingue très bien, en tout cas chez Lacan, trois domaines qui agissent dans la psyché. C'est le réel, l'imaginaire et le symbolique. Donc le symbolique a vraiment une place à part, voilà, dans le langage, dans notre façon de communiquer, nous représenter le monde. Et je termine le livre avec ça, en demandant s'il ne serait pas possible de choisir un animal, un autre animal qui existe vraiment et qui soit un peu plus, voilà, ancré dans le réel et dans l'humain.
Bienvenue dans le Nouveau Monde, sous-titre « Comment j'ai survécu à la coulitude des startups » et donc signé Mathilde Ramadier chez Premier Parallèle. Merci à elle qui a pris le temps de venir nous raconter son aventure à ce micro. Merci aux équipes de Premier Parallèle, en particulier Sophie Kaya, pour leur appui et leur admirable travail. L'atelier était signé cette semaine Simon Decreuse, Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, Lucie Bouteloup, merci pour ta voix Lucie. Et Ziad Malouf, bienvenue aux 103 nouvelles blogueuses, nouveaux blogueurs de Mondoblog. Nous sommes maintenant 850 à posséder et alimenter plus ou moins régulièrement un journal de bord numérique sur mondoblog.org. C'est une fierté distribuée, pour reprendre un terme français cher à l'internet et aux nouvelles technologies. Pour nous partager, pour nous louer, pour nous critiquer, pensez podcast. Salut à toutes et à tous.
Derrière l'utopie riche de promesses humanistes vendues par la start-up sphère, se cache en réalité un ultralibéralisme féroce et encore trop peu redouté. Un mélange de fascination pour les technologies de l'information, dont les progrès sont fulgurants, et de soumission perverse à la nouvelle économie et aux réseaux sociaux, dans lesquels l'individu, sa parole, ses aspirations et son esprit critique n'ont plus de place. Seul l'ego a encore un rôle à jouer. On le drague à coups de compliments et d'injonctions exaltées pour le convaincre qu'il est important, qu'il mérite une place de premier choix, qu'il est, lui aussi, de tout son être, le symbole vivant d'une révolution en marche. And I still think of you.